Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, c'est Mondial Sport qui repart pour une demi-heure d'infos et de reportages. Au menu ce soir, Arsenal, toujours patron de la Première Ligue à l'issue de sa victoire dans le derby londonien avec Chelsea. Analyse de ce duel et des autres rencontres marquantes dans un instant. Gérard Piqué, néo-retraité des terrains pour mieux se consacrer à ses affaires. Le Barça a rendu hommage au Camp Nou à son défenseur de 35 ans qui troque pour de bon maillot et crampons contre son costume cravate et ses mocassins de businessman. Retour sur la victoire sur le fil du 15 de France de rugby sur l'eau Australie pour le premier match de sa tournée d'automne. Également au sommaire, la jeunesse triomphante au Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy. Le Danois Holger Rune crée la sensation en privant Novak Djokovic d'un nouveau sacre. On partira également en République tchèque à la découverte du footnet, une discipline spectaculaire alliant ballon de foot et mini terrain de tennis. Qui pourra défier l'Angola lors de la CAN féminine de hand 2022 qui démarre mercredi à Dakar? Peut-être les Sénégalaises elles-mêmes. En tout cas, elles affichent leurs ambitions. Enfin, reportage au marathon de Pékin qui renaît cette année dans un pays toujours sous strictes restrictions sanitaires. Allez, la Première Ligue, donc, pour donner le coup d'envoi de cette demi-heure. Une 13e journée lancée hier par la victoire sur le fil de Manchester City face à Fulham 2-1, histoire de maintenir Arsenal sous pression avant le derby aujourd'hui à Stamford Bridge avec Chelsea. C'est évidemment sur ce match qu'on va attaquer avec ce soir Bruno Constant. Bonsoir Bruno.
Bon. Bonsoir Christophe.
Petite victoire des Gunners au score, 1-0, mais on va dire c'est largement mérité parce qu'ils ont été les plus dangereux et les plus réguliers sur l'ensemble du match.
Absolument, et contrat rempli pour Arsenal qui était sous pression, vous l'avez dit, après le succès de Manchester City la veille face à Fulham, arraché à 10 contre 11 dans le temps additionnel grâce à Erling Haaland, puisque c'est un déplacement périlleux pour les Gunners, pas très loin, à l'ouest de la capitale londonienne, face à un concurrent pour le top 4, Chelsea, qui restait sur une lourde défaite à Brighton. Victoire 1-0 au final, grâce à un but de Gabriel sur un corner de Saka. Mais un résultat qui ne reflète pas totalement la domination et la maîtrise des Gunners, puisque ce match a été à sens unique. On attendait beaucoup des retrouvailles entre Emerick, Aubameyang et son ancien club d'Arsenal, qu'il avait mis à la porte en janvier. Mais le Gabonais a traversé ce match comme un fantôme, et qu'il a fini d'ailleurs sur le banc, à l'image de Chelsea, son équipe décevante, sans vie, sans idée. Les Blues, désormais septième, décrochent et s'enfoncent lentement mais progressivement dans la morosité avec un changement d'entraîneur, Graham Potter pour Thomas Tuchel, que certains commencent déjà à regretter. De son côté, Arsenal reprend sa place de leader et s'affirme de plus en plus comme le challenger officiel de City pour le titre.
Et City qui, pour l'instant, est à 2 points derrière Arsenal. 5 derrière, il y a Newcastle, toujours sur une belle dynamique avec une victoire 4-1 assez prévisible hein, chez Southampton mal classé. Et qui profite dans le même temps de la défaite de Tottenham chez lui face à Liverpool 2-1, doublé de Mo Salah qui relance des Reds à la peine ces derniers temps.
Absolument, et les Reds qui enchaînent après avoir battu dans la semaine la plus belle équipe d'Europe cette saison, je parle évidemment du Napoli, c'était en Ligue des Champions, à tel point qu'Jürgen Klopp se souvenait même plus depuis quand son équipe n'avait pas remporté 2 matchs d'affilée. Liverpool a été porté par un doublé de Mo Salah qui revient progressivement à son meilleur niveau, contre un but de l'inévitable Harry Kane sur un service de Kulusevski, 2 retours de blessure et dont la créativité avait manqué aux Spurs. Il y avait beaucoup d'absents à Tottenham, notamment dans le secteur offensif. Son et Richarlison sont toujours blessés. Lucas était ménagé et sur le banc au coup d'envoi. Mais ça n'explique pas que Tottenham, encore une fois, démarre ses rencontres à l'entame de la seconde période. Ça passe contre la lanterne rouge Bournemouth le week-end dernier. Ça passe contre l'OM en Ligue des Champions. Mais face à ce Liverpool revigoré, ça ne passe pas. Liverpool a remporté un succès capital pour la suite de sa saison, puisque dans le week-end, United a été battu à Villa Park, on va y venir. Chelsea battu à Arsenal, par Arsenal. Et donc cette victoire à Tottenham des Reds, en l'espace d'un week-end, Liverpool a repris 3 points sur 3 concurrents directs dans la course au top 4.
Voilà, donc vous en parliez et on va enchaîner là-dessus. Manchester United, bah pas brillant non plus, battu 3-1 à Aston Villa. Bonne opération pour Aston Villa, en plus pour la première d'Unai Emery sur le banc du club de Birmingham.
Oui, Manchester United avec un Cristiano Ronaldo titulaire à la pointe de l'attaque des Red Devils pour la 4e rencontre consécutive depuis sa mise à l'écart, ce qui fait penser que CR7 a fini par gagner son bras de fer avec Ten Hag, même si les options manquaient un peu à l'appel devant et notamment Anthony et Sancho qui étaient blessés, Martial de retour de blessure et sur le banc au coup d'envoi. De son côté, Aston Villa semble avoir attendu le limogeage de Steven Gerrard pour jouer comme le faisait Steven Gerrard avec de l'intensité, de l'énergie, de l'agressivité, parfois la limite, mais qui ont cueilli à froid Manchester United à l'entame de chaque période. 2 buts dans les 12 premières minutes, 1 but au retour des vestiaires en seconde période. La frappe de Luke Shaw déviée par Ramsey n'a servi à rien pour United. C'était pourtant bien la première d'Unai Emery sur le banc d'Aston Villa. Et le technicien basque vient simplement d'infliger sa première défaite à Ten Hag et United en 10 rencontres, toutes compétitions confondues, rien que ça. Quant à Ronaldo, sa présence dans le 11 fait toujours débat à United.
Merci beaucoup Bruno Constant pour ce petit tour d'horizon très complet des temps forts de la Premier League ce week-end. Deuxième escale de la soirée, l'Espagne pour la 13e journée de Liga. L'Atlético de Madrid, tenu en échec à domicile par l'Espagnol Barcelone, partout, ne va toujours pas très fort. Les Colchoneros, 3e du classement, risquent de céder encore un petit peu de terrain au Real qui se déplace demain sur le terrain de son voisin, le Rayo Vallecano, dans le but de reprendre le fauteuil de leader au FC Barcelone. Le Barça vainqueur hier soir du promu Almeria 2-0 dans une atmosphère forcément particulière puisque c'était la dernière apparition au Camp Nou de Gérard Piqué, le défenseur de 35 ans quitte pour de bon son club de cœur pour prendre une retraite qu'on sait déjà très active vu son sens des affaires. Pierre Chaperon.
Un tour d'honneur pour terminer une carrière au Barça riche de 30 trophées, dont 3 Ligues des Champions. Gérard Piqué a dit au revoir au Camp Nou.
Quand on vieillit, on se rend compte que la vie, c'est aimer, mais c'est aussi savoir partir.
De l'émotion, forcément. Pour l'occasion, une bâche a été déployée pendant l'avant-match en son honneur. Maillot spécial pour l'occasion. Au micro de DAZN, Gérard Piqué est revenu sur sa décision.
Ça a été une libération et m'en aller de cette manière, je crois que j'emporte avec moi un souvenir inoubliable. Je n'ai jamais pensé à mon départ. Je me disais toujours, allez, je fais une année de plus et puis une autre. Mais bon, les choses se sont faites d'une manière telle que j'ai dû prendre une décision. Ces 6 derniers mois ont été très difficiles et ça s'est vu. Mais bon, en route pour la prochaine étape.
Piqué met fin à sa carrière à 35 ans, rincé par un emploi du temps déjà bien chargé. Homme d'affaires, à l'origine notamment de la très décriée Coupe Davis, difficile de concilier son business avec le haut niveau sportif. Ajoutez à ça un divorce médiatique avec la chanteuse colombienne Shakira et des paparazzi qui le suivaient sans répit. Il n'en reste pas moins que l'annonce faite dans la soirée du 3 novembre, dans un clip très léché où le joueur revient sur ses années de gloire, a surpris pas mal de monde. Mais comme souvent, quand un joueur raccroche, c'est une pluie d'hommages qui ont eu lieu, à commencer par son dernier entraîneur, Xavi Hernandez.
Ça a été un exemple depuis que je suis entraîneur, un exemple pour l'équipe, les capitaines, les jeunes joueurs, le staff. Jamais il n'était de mauvaise humeur, il s'entraînait à 100%. À partir de là, j'ai toujours été honnête avec lui dès l'été. Et les décisions ont fait qu'il a choisi, lui, cette fin de carrière-là.
Seulement 5e dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Piqué n'entrait plus dans les plans de son entraîneur. Déçu également par la direction du club, les sifflets du public à son encontre. Selon la presse, la décision de quitter le football grandissait dans son esprit. Pour le site internet Relevo, c'est le 27 octobre qu'il aurait fait part de son choix à Joan Laporta, un président du Barça qui lui rendait hommage quelques minutes après avoir rendu publique sa décision.
C'est une décision que nous respectons, que nous partageons. À partir de là, nous pouvons dire qu'il sera toujours une référence pour notre club. Dernièrement, il avait intensifié encore plus sa réflexion, si bien que nous avions décidé de laisser entre ses mains la décision finale.
Une bonne affaire pour le Barça qui se déleste d'un salaire astronomique puisque Piqué renonce à ses 18 derniers mois de contrat, une aubaine dans une période financière difficile pour le club. La suite pour Piqué, continuer son business avec sa société de divertissement, faire grandir le FC Andorre dont il est propriétaire et qui est classé en milieu de tableau de la 2e division espagnole. Mais surtout, comme il l'a annoncé dans sa vidéo d'adieu,
vous me connaissez, tôt ou tard, je reviendrai.
Son rêve reste de devenir le président du FC Barcelone. Reste à savoir quand il relèvera le défi de sa vie. Pierre Chaperon, Madrid. RFI.
Allez, après l'Espagne, la suite de la 13e journée de Serie A en Italie, marquée par deux belles affiches. On en a rapidement parlé hier. La Lazio-Rome s'est imposée 1-0 dans le derby de la capitale avec l'AS Rome. À l'instant, la Juventus Turin a battu l'Inter Milan 2-0. Et puis la fin de la 14e journée de Ligue 1 avec Marseille-Lyon 1-0. Il reste quelques secondes à jouer entre Marseille et l'Olympique Lyonnais, alias l'Olympico. En milieu de journée, le Paris Saint-Germain était allé l'emporter à Lorient 2-1. Le Nigérian Terem Moffi a inscrit le but des Merlus. Derrière le PSG et son dauphin Lens, Rennes conserve sa troisième place malgré sa défaite à Lille 1-0.
Mondial Sport, votre rendez-vous sportif.
Il s'en est fallu de pas grand-chose pour que le 15 de France de rugby rate sa rentrée des classes hier soir au Stade de France. Les Bleus, emballant au printemps avec leur grand chelem dans le tournoi des Six Nations, étaient forcément attendus. Leur succès étriqué et tardif sur l'Australie 30-29 à l'occasion du premier match de leur tournée d'automne n'était clairement pas le plus impressionnant de leur série en cours de 11 victoires, nouveau record historique. Mais au moins, il permet d'engranger de la confiance sur la longue route vers la Coupe du Monde. Martin Guèze.
Après les victoires en chantant, l'hiver dernier, le 15 de France invente la victoire en souffrant. Pas de tout repos à suivre en tribune pour Nathalie, supportrice parisienne.
Tout va bien, mais c'est vrai qu'on a eu peur quand même. C'était pas évident. Oui, il y a encore du boulot. Faut rien lâcher.
Ne rien lâcher, à l'image de l'ailier Damien Penaud, auteur d'un magnifique essai en toute fin de match pour faire basculer la France en tête. Et faire basculer les hommes de Fabien Galthié à 11 victoires de suite, un record dont le capitaine Antoine Dupont a presque perdu le compte.
Je crois que Fabien, avec sa génération, en avait fait 10, me semble.
8.
8, moi je suis pas loin. C'est important dans notre progression, ça montre que ce qu'on fait, ça fonctionne. Et toujours garder cet appétit, on n'a rien gagné aujourd'hui, même si ça nous donne que plus d'envie d'en faire plus sur les mois qui arrivent.
Son sélectionneur, lui, a bien compté sur ses deux mains, et même plus encore, Fabien Galthié.
11 matchs consécutivement. On est très fiers. Quand je regarde un petit peu l'expérience collective des équipes que l'on joue et l'âge moyen des équipes, on est souvent, voire tout le temps, la plus jeune. On est sur un chemin qui est validé par les victoires. Ça nous encourage à continuer.
Une jeunesse courageuse et encouragée par un public incandescent, forcément appréciable pour Dupont et Galthié.
Depuis quelques mois, quelques années maintenant, on sent vraiment qu'il y a un engouement derrière nous, qu'il y a des supporters qui ont envie de venir au stade pour nous voir jouer, pour nous applaudir, pour nous encourager. Et bien sûr qu'on le sent rien qu'à l'entrée dans le stade, la Marseillaise. Ça fait plaisir, on sent l'engouement des gens. C'est toujours un plaisir de revenir ici.
On est des Latins, hein, on est un peuple gaulois, donc ça nous touche. L'affect, l'émotion, c'est quelque chose qui nous aide à nous dépasser.
À avancer jusqu'à la Coupe du Monde. Enfin, si Jean-Philippe, supporter trentenaire venu de Bordeaux, on trouve un petit peu de voix d'ici là.
Je vais essayer de récupérer ma voix d'abord. J'ai beaucoup crié ce soir. Cette équipe de France, là, on est capable, même dans le stress, de gagner ces matchs-là et de rassurer le public qui les attend derrière. Moi, ce billet-là, par exemple, il est réservé depuis 6 mois. Ce qui ne serait absolument pas arrivé il y a 5 ans. J'ai l'impression de rater quelque chose si je ne viens pas à un match comme celui-là. Quoi.
Et de quoi se montrer optimiste à l'approche du grand événement.
On a eu des grandes générations d'équipes capables. Celle-là en est capable. On y croit. Aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé notre identité. Quoi. Moi, j'ai envie de croire en cette équipe. Ouais.
Même sentiment chez Jean-Pierre, barbe blanche et chapeau bleu-blanc-rouge, qui ne boude pas son plaisir après une décennie de galères.
Ils sont en train de nous amener un rugby que j'aime, que j'avais perdu depuis plusieurs décennies, avec 3-4 joueurs qui sont capables de faire des choses qui sont interdites. Il y a un collectif extraordinaire.
Et son fils Pierre, lui, est déjà prêt pour le mondial.
On a préparé le salon, on a commencé à mettre les télés, on a commencé à programmer un peu nos week-ends qui vont être pris par ça. Et on sera là pour suivre et supporter.
Des supporters comblés qui n'attendent qu'une chose, que la belle série se prolonge jusqu'à la Coupe du Monde en septembre prochain.
Et les Français auront l'occasion de prolonger cette série dès samedi prochain à Marseille, en affrontant cette fois les champions du monde sud-africains.
Mondial Sport, Christophe Diremzian.
Les années passent et la jeune génération du tennis mondial commence petit à petit à faire comprendre à ses glorieux aînés qu'il va bien falloir tourner la page à un moment. En témoigne la victoire aujourd'hui de quelqu'un qui n'était pas prévu au programme. Il s'agit d'Holger Rune, le Danois qui a battu à la surprise générale au final du Masters 1000 de Paris-Bercy, Novak Djokovic. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Vous avez suivi ce match formidable et longtemps et d'ici.
À l'image de son dernier jeu qui aura duré 17 minutes. Holger Rune servait alors pour le titre alors qu'il menait 6 jeux à 5 dans la troisième manche. Novak Djokovic qui avait loupé le coche plusieurs fois durant cette rencontre, comme en début de deuxième manche avec des balles de break alors qu'il avait remporté facilement la première 6-3 ou alors dans la dernière manche alors qu'il menait 3 jeux à 1. Eh bien le Serbe s'est battu jusqu'au bout, s'offrant 6 balles d'égalisation à 6 jeux partout. Mais le Danois de 19 ans a montré de quel métal il était fait. Il n'a rien lâché, sortant des coups magnifiques pour s'imposer finalement à sa deuxième balle balles de match. Score final 3-6, 6-3, 7-5 pour Holger Rune, qui remporte ainsi le plus beau titre de sa carrière, son troisième tournoi cette année. Il met fin au passage à la série de 20 victoires consécutives de Djokovic sur le circuit ATP, d'où son immense émotion après cette finale, Holger Rune.
C'est vraiment incroyable. Remporter ce trophée, c'est exceptionnel. J'ai dû sauver 3 balles de match lors de mon premier tour, alors gagner aujourd'hui le tournoi, c'est la plus forte émotion de toute ma carrière. C'est un rêve qui s'est concrétisé, un cap supplémentaire de franchi. Gagner un tel match contre Novak, l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, réussir à remporter ce dernier jeu a été le plus grand soulagement de ma vie. Mon stress était à son maximum, donc je suis vraiment ravi de m'en être sorti. Avant chaque match, je crois en mes chances. Mais contre Novak, qui est très expérimenté, je savais que je devrais en faire encore plus. Il fallait vraiment que j'utilise ma jeunesse, ma volonté pour lui mettre la pression. J'ai réussi à bien jouer les points importants et c'est ce qui a fait la différence. Mais il est extrêmement dur à jouer. Je pense que c'est l'un des matchs les plus difficiles de toute ma vie.
Et ces 3 balles de match sauvées, c'était au premier tour contre Stan Wawrinka. Comme quoi, les destins tiennent parfois un fil.
Holger Rune qui surfe depuis plusieurs semaines sur cette dynamique incroyable.
Il disputait aujourd'hui sa 4e finale de suite sur le circuit. Il en avait remporté une à Stockholm il y a 15 jours, aux dépens de Stefano Tsitsipas. Et cette semaine, il a plus que confirmé, devenant le premier joueur depuis 1973 à battre 5 membres du top 10 dans le même tournoi. Rublev, Urkash, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial et Félix Auger-Aliassime ont tour à tour cédé face au coup de boutoir du fougueux scandinave, avant donc l'ancien numéro 1 mondial, Novak Djokovic. De quoi bluffer celui qui l'entraîne depuis cet automne, le français Patrick Mouratoglou.
Il m'a bluffé, oui, mais il me bluffe tout le temps, là, depuis 3 semaines. Il montre des qualités mentales hors normes. C'est là-dessus qu'il me bluffe le plus. Son jeu, je le connais par cœur, donc bon, même s'il est capable de sortir des coups exceptionnels, et c'est vrai qu'il est impressionnant, sa faculté à changer de rythme est assez incroyable, c'est assez rare. Il joue à un rythme, pam, 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 pam! D'un coup, il met une accélération et en fait, c'est un peu comme un boxeur qui peut mettre un uppercut à tout moment et on peut se retrouver KO, donc je pense que c'est très déstabilisant pour l'adversaire. Mais il est bluffant sur sa capacité à mettre en place les choses tout de suite, quoi. Que c'est pas facile quand même. Ce que je lui ai demandé il y a 3 semaines, il l'a fait tout de suite. Il l'a fait tout de suite et il l'a fait tous les jours et il l'a fait à chaque match et il l'a fait de mieux en mieux. C'est rare. Et puis, parce qu'il a trouvé un peu plus de stabilité, il a été capable de faire des choses extraordinaires.
Plus de stabilité mentale notamment, car Holger Rune réussit à mieux canaliser désormais son incroyable fougue et son envie débordante de gravir les échelons. Mais ça marche plutôt bien et vite, puisque 500e mondial il y a 2 ans, 103e début 2022, il a été quart de finaliste à Roland-Garros au mois de mai, et bien il sera demain, Christophe, 10e au classement ATP.
Holger Rune, encore un très jeune joueur qui vient bousculer la hiérarchie du tennis.
Oui, les Medvedev, Zverev et autres Tsitsipas feraient presque figure d'anciens avec leurs 24-25 ans, car derrière ça pousse, et plus que cela même, Félix Auger-Aliassime, 22 ans et 8e mondial, les Italiens Yannick Sinner, 21, et Lorenzo Musetti, 20, ne sont pas loin, tandis que, on le sait, Carlos Alcaraz est devenu à 19 ans le plus jeune, numéro 1 mondial de l'histoire, en remportant le dernier US Open. Bref, avec eux, et désormais Holger Rune, 19 ans également, le tennis a de beaux jours devant lui, ce dont se réjouit l'ancien champion français Henri Lecomte.
L'avantage qu'il a, le jeune, 19 ans, il a insouciance. Et c'est génial parce qu'il nous fait plaisir. Et puis on a besoin de ça, quoi. Parce qu'on a laissé nous être orphelin. On a perdu Roger, Rafa. Et ce jeune-là, voilà, c'est la nouvelle génération avec un tennis différent, explosif, qui va amener beaucoup de choses au tennis. Voilà, il nous a fait voir de très très belles choses où il est capable de bousculer et de jouer un tennis totalement différent que des joueurs précédents. Donc c'est vrai que les meilleurs, bah, comme ils sont toujours joués dans la même, je ne veux pas même dans la même routine, mais disons de la même façon. Et bien tout d'un coup, on a un joueur, Rune, qui arrive en faisant un petit peu du « je te fais, je t'entoure loupe, je te truc ». Donc c'est de bon augure pour la suite.
Et la suite, c'est dès dimanche prochain le Masters qui réunira à Turin les 8 meilleurs joueurs du monde, sans Carlos Alcaraz, blessé cette semaine et forfait, mais peut-être avec Holger Rune, actuellement remplaçant et qui pourrait y participer si un autre joueur venait à se retirer.
Merci beaucoup Eric, en ligne de Bercy. Du tennis encore, mais pour corser l'affaire, on va remplacer la petite balle jaune par un ballon de football et interdit d'utiliser les mains, seulement les pieds, pour le renvoyer de part et d'autre du terrain. Cette discipline, c'est le footnet ou tennis ballon. Les meilleurs joueurs internationaux se sont retrouvés ce week-end pour les championnats du monde en République tchèque, terre de naissance et de prédilection du footnet. Mais c'est l'équipe de France qui a remporté le titre. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Du monde et de l'ambiance pour ces championnats du monde de footnet à Prague ce week-end. Un terrain de dimension égale à celui de volleyball. Un filet à 1,10 m du sol et 3 disciplines détaillées par l'entraîneur de l'équipe de France, Guillaume Ortiz.
Donc le 1 contre 1, le simple, il y a un seul rebond et 2 touches pour le joueur. Ensuite, il y a le 2 contre 2 avec un rebond et 3 touches pour toute l'équipe. et le 3 contre 3, le triple, avec un rebond et 3 touches pour toute l'équipe. Un set de 11 points, 2 sets gagnés, match gagné, et si besoin, 3ème set.
2 points d'écart ou pas ?
2 points d'écart, et s'il y a 14-14, ça s'arrête à 15.
Et cette équipe de France, désormais officiellement affiliée à la Fédération Française de Football, a créé la sensation ce dimanche en remportant l'or face à la Slovaquie en double, grâce notamment à Jérémy Caramel.
La petite médaille de champion du monde, incroyable. Première fois qu'on la gagne, c'est là.
Et à Prague, ça fait
quoi ? Et à Prague, incroyable. Une ambiance de dingue, une salle pleine, c'est incroyable pour nous. En France, on n'a pas la chance de jouer sur des salles comme ça. Là, c'est exceptionnel, on a été en feu toute la compète, donc magnifique. 100 ans, elle est pour nous, et on la gardera chaudement à la maison, celle-là.
Et le titre mondial en triple a été remporté face à la Tchéquie par la Slovaquie, dont fait notamment partie Jan Brutowski.
Tennis ballon au footnet, c'est traditionnel sport. Cette année, ils appellent Noé Ball, ce sport, à 100 ans. Et 100 ans, c'est beaucoup de joueurs à République tchèque, à Slovaque. C'est histoire, notre histoire.
C'est en 1922 que des footballeurs du Slavia Prague ont eu l'idée de s'entraîner en tendant une corde pour faire passer le ballon au-dessus et donner ainsi naissance au no-hay-ball. Un siècle plus tard, le sport s'appelle Footnet et une fédération internationale existe depuis 2010. L'UNIF est présidé par un Tchèque et le Français Jean Deloffre en est le vice-président.
L'idée, il y a la création de l'UNIF, c'était de trouver un nom international de telle sorte que partout dans le monde, on essaye d'avoir le même nom. Jusqu'alors, on disait tennis-ballon en France, football-tennis en Suisse, noche-ball en République tchèque. Voilà, on essaye d'homogénéiser, c'est du marketing hein, pour avoir une marque et la diffuser mondialement.
L'objectif pour ce sport, c'est quoi ? C'est les Jeux Olympiques un jour ?
Ah, ce serait le rêve, évidemment, mais disons qu'avant ça, il y a des étapes. D'abord, avoir des fédérations sur tous les continents qui peuvent organiser des championnats continentaux. Et ensuite, il y a des compétitions, je dirais, de deuxième niveau par rapport aux Jeux Olympiques, comme les Jeux Méditerranéens, par exemple, des compétitions comme ça, où il serait intéressant d'introduire le footnet. Et puis, les Jeux Olympiques, bien sûr, après, on y rêve, on en rêve.
Hélas pour l'Afrique, les équipes du Mali et de Côte d'Ivoire n'ont pu jouer à Prague, faute d'avoir obtenu des visas en temps et en heure. Le footnet est également très populaire chez les Sud-Coréens, qui appellent ce sport Jokku et qui sont sur les rangs pour organiser les prochains championnats du monde à Séoul dans 2 ans. Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
Mondial Sport, votre rendez-vous sportif.
Avec un mois d'avance sur le calendrier habituel pour ne pas être éclipsé médiatiquement par la Coupe du Monde de foot, les championnats continentaux féminins de handball ont ou vont commencer. Le coup d'envoi de l'Euro a été donné vendredi et mercredi. Ce sera au tour de la CAN de démarrer à Dakar avec 13 nations prêtes à se qualifier, se disputer l'une des 4 places qualificatives pour le Mondial 2023. L'Angola est ultra favorite comme d'habitude, mais les Sénégalaises espèrent tirer leur épingle du jeu. Notre correspondant Babacar Fall les a suivis sur leur dernier jour de préparation.
Le match est terminé, les Lions gagnent par 32 à 26. La demi-centre, Soukaina Sagna.
On est contente sur une victoire, maintenant moins sur le match, parce qu'on aurait pu bien faire mieux. Et avec une équipe un peu plus structurée, avec plus de rotation, je pense qu'on peut avoir du mal. Donc il faut se concentrer sur ça, de commencer les bons débuts de match. Maintenant, voilà, la prépa elle est terminée, on est toutes contentes et on est pressé de commencer la compétition à la maison.
Le sélectionneur du Sénégal, Yacine Messaoudi, reconnaît lui aussi qu'il y a des choses à corriger dans son équipe.
L'objectif, c'était de pouvoir faire tourner. Nous, on a réussi à faire tourner tout le monde, tout l'effectif à jouer. Mettre certaines au repos, parce qu'elles ont quelques bobos et c'est des joueurs très importants. Nounou Camara, Amina Sankaré, Diana Bassi, c'est des titulaires en puissance. On a réussi à faire ce match-là en se passant d'elles. Et pour autant, on a pu gagner ce match-là en se mettant déjà dans le contexte de la CAN. Donc j'ai envie de me concentrer sur ce qui est positif. Il y a plein de choses à régler dans le jeu, et ça, j'en ai conscience.
Mais nous sommes prêtes, rassure la capitaine Hawa Ndiaye.
Physiquement, ça va, ça se passe bien. Il y a 2-3 petits pépins, mais rien de très grave. Donc voilà. Et mentalement, on est bien. Comme d'habitude, on a un bon groupe qui vit bien. On est en bonne coopération et ça va. Je pense qu'on peut relever le défi, vraiment je pense, mais maintenant il va falloir mettre vraiment tous les ingrédients au bon moment et au bon endroit, et on travaille dur pour en tout cas.
Le Sénégal pas forcément favori, même si cette CAN féminine de handball se déroule à Dakar. Énorme concurrence en vue avec notamment l'Angola, la nation la plus titrée sur le continent. Les Angolaises, 14 fois championnes d'Afrique, mais cela n'empêche pas les Lyonnes d'être ambitieuses. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf.
Nous, on organise, c'est pour gagner. Mais en tout état de cause, nous connaissons ce qui se passe aussi en Afrique. Nous savons qu'en Afrique, il y a 5 ou 6 équipes majeures. Le Sénégal en fait partie. Et de ces 6 équipes majeures, 4 devront normalement rejoindre la prochaine Coupe du Monde. Et notre ambition de base, c'est vraiment d'être dans ce carré qui va rejoindre la Coupe du Monde. Et après, maintenant, à partir d'une demi-finale, c'est des matchs couperés. Hein. Après, c'est une compétition. Mais notre objectif, notre ambition, c'est vraiment de gagner le trophée ici chez nous.
Babacar Fall, Dakar, RFI.
Les Sénégalaises qui effectueront leur match d'ouverture mercredi contre Madagascar. Les Angolaises, elles, entreront en lice jeudi contre l'Algérie. On va terminer ce Mondial Sport en petite foulée en évoquant deux marathons disputés ce dimanche. Le premier, très célèbre, celui de New York, remporté par le Kenyan Evans Chebet. Le second, beaucoup moins connu, celui de Pékin, théâtre quand même d'un exploit, pas chronométrique, mais par le simple fait d'avoir pu relancer la course après deux éditions annulées pour cause de Covid-19. Car vu les mesures sanitaires toujours très strictes en vigueur en Chine, organiser un événement tel que celui-là n'allait pas de soi et les participants l'ont vécu comme une véritable bouffée d'oxygène. Reportage Stéphane Lagarde.
Jiayou, Jiayou, allez les athlètes sur une musique guillerette. La place Tiananmen avait presque envie de chanter la chanson du marathon retrouvée ce matin. Marathon, marathon. Avec la résurgence épidémique, de nombreuses compétitions sportives ont été reportées, voire même tout simplement annulées. La politique sanitaire chinoise, très stricte, entend bloquer le virus dès qu'il apparaît jusqu'au bout. Cette Pékinoise a attendu ce moment en croisant les doigts.
Cela fait 3 ans que j'attends ça et cette fois on part. Je suis tellement contente, c'est mon 5e marathon, mais celui-là, c'est probablement le plus important. J'ai obtenu une place en 2020, à chaque fois ils l'ont annulé. Mais là, il y a même un peu de soleil, c'est trop bien.
Bon signe de distanciation sociale rappelé sur les pancartes tenues par une armée de volontaires et au sol par des lignes rouges avec en blanc le chiffre 1 pour 1 mètre de distance. Devant le mausolée de Mao, la longue file des coureurs s'allonge à mesure que les derniers arrivants enfilent leur dossard. Puis c'est une clameur enthousiaste de la foule à la fin de l'hymne national. Les coureurs trépignent d'impatience. Pour en arriver là, la condition physique ne suffit pas. Il fallait aussi respecter les consignes sanitaires, nous dit ce jeune salarié de la fonction publique.
La consigne, c'est de ne pas quitter Pékin dans les 7 jours précédant le départ. On a dû envoyer notre état de santé tous les jours pendant la semaine. On a fait aussi plusieurs tests Covid, dont le dernier hier. Et il faudra en refaire après la course.
Selon les organisateurs, 30 000 participants étaient inscrits à cette édition 2022. Mais ce matin, la télévision centrale de Chine n'en comptait plus que 20 000. Dans la Chine du zéro Covid, la capitale chinoise se ferme en cas de rebond Omicron. Presque tous les coureurs viennent cette année de Pékin, comme Madame Wang, arrivée première chez les filles. Modeste, elle relativise sa performance.
Mon classement est aussi une question de chance. Si des athlètes de toute la Chine et de l'étranger avaient pu participer, cela aurait été plus difficile. Mais je suis très contente. C'est mon premier marathon et courir fait un bien fou. On est en bien meilleure santé.
Parmi les meilleurs du classement, ceux des coureurs du célèbre club de marathon de Pékin, Yuan Dadou, qui a envoyé 200 de ses meilleurs compétiteurs et dont fait partie le vainqueur cette année, originaire de la région autonome du Xinjiang, le sino-kazakh Anubaik Kuan a remporté l'épreuve en 2h, 14 minutes et 33 secondes. Parmi les mieux classés encore, il y a également les sportifs de l'armée et des forces de l'ordre, comme ce policier qui a terminé 7e sur la ligne d'arrivée. Chiayo.
Je suis totalement épuisé. J'ai voulu renoncer à 10 km de l'arrivée. Puis je me suis dit que ce n'est pas facile pour Pékin d'organiser un marathon et c'est dommage de gâcher l'entraînement. Enfin, je porte le maillot de la police, donc j'ai tenu.
Tenir en attendant l'année prochaine, le marathon est la première compétition majeure à être organisée dans la capitale chinoise depuis les Jeux Olympiques d'hiver en février dernier. Stéphane Lagarde, Louise May, Pékin RFI.
Et voilà, Mondial Sport qui se referme tout doucement cette fois pour ce soir. Un grand merci à Laurent Philippot et Claude Battista pour la réalisation. Comme d'habitude, séance de rattrapage possible à tout moment en podcast sur le site RFI.fr ou via l'appli RFI Pure Radio ainsi que sur notre page Facebook Mondial Sport RFI. Dans un instant, c'est 24 heures en France avec Loïc Bussière. Bonne fin de soirée à tous et à toutes et au week-end prochain.